Il est dit bien souvent et à de diverses occasions par nos aînés qu'il est important d'avoir une compagnie. Une compagnie qui pourrait bénéficier de soi quand on est dans de bonnes dispositions et dont on pourrait bénéficier quand on est dans de mauvaises dispositions. Cette compagnie, l'on ne naît pas avec. On la cultive au fur et à mesure qu'on grandit. On la rencontre, puis on décide de ce qu'elle peut représenter pour nous. Puis on l'accepte comme une personne dont une partie de notre vie dépend. Cette compagnie-là, on l'appelle un ou une amie. Retenir cette compagnie ou la cultiver, on appelle cela l'amitié. L'amitié est une chose d'autant plus délicate parce qu'on la choisit soi-même. L'ami est un frère ou une sœur qui n'a pas la même provenance biologique que nous. La différence entre un frère et un ami est qu'il est plus facile d'avoir un frère ou une sœur plutôt qu'un ami. La raison en est que l'on ne pourra jamais défaire le lien de fraternité qui existe entre deux personnes. Mais on pourra toujours défaire ou perdre le lien d'amitié qui existe entre deux personnes. Ainsi, un ami vrai, on a peur de le perdre. On refuse de le perdre. Non pas parce qu'on en dépend, mais surtout parce que perdre cette amitié en dit long sur la nature que nous avons en tant que personne morale. On a tous une perception de l'amitié. Mais sait-on vraiment ce que c'est que l'amitié? Très peu d'entre nous pratiquent l'amitié avec vertu. La raison en est que justement l'amitié est perçue superficiellement. Ce qui nous pousse tous à répéter l'expression « c'est mon ami » avec légèreté. Mais c'est quoi un ami? Eh bien, un ami, c'est une personne qui est née d'une essence différente de la nôtre et vis-à-vis de laquelle on a un attachement engagé. Un attachement engagé, c'est-à-dire que ce n'est pas comme l'amour où le sentiment est inexpliqué. Mais dans ce cas-ci, on décide par soi-même d'être ami à cette personne, de s'attacher à cette personne, de former ce qu'on appelle une équipe avec cette personne. Mais la décision de se mettre en équipe ou en association avec une personne implique beaucoup plus que ce que nous pensons. Mais pour comprendre ce à quoi on s'engage quand on prend la décision d'avoir un ami, il faut déjà comprendre ce que cela implique de ne pas en avoir du tout. Qu'est-ce que cela veut dire que de ne pas avoir d'amis? Eh bien, ne pas avoir d'amis, c'est ne pas avoir de rétroviseur. Donc, vous n'avez pas de vision correcte de vos angles morts. Ne pas avoir d'amis, c'est n'avoir personne vers qui vous tourner pour célébrer vos victoires ou vous consoler de vos échecs. Ne pas avoir d'amis, c'est manquer de joueurs clés dans votre équipe dans le jeu face à la vie. Ne pas avoir d'amis, c'est être dans la merde tout seul. Quand vous n'avez pas d'amis, vous êtes vulnérable, vous êtes faible. Vous êtes à la portée de toutes les mains. Quand vous n'avez pas d'amis, parfois, vous ne savez pas bien ce que vous valez. Et cela, justement, à cause de ce que cela implique d'avoir et d'être un ami. Être un ami et avoir un ami, eh bien, c'est deux choses différentes. Deux choses qui nécessitent autant de qualités vitales l'une autant que l'autre. Être et avoir un ami dans la sincérité même de la chose, cela fait de vous une personne accomplie. Bien que l'amitié ne soit pas un trophée qu'on exhibe pour justifier sa propre bonhomie, c'est tout au moins la seule chose qui prouve une partie de soi que l'on peut dire être vertueuse. Comprenez que les avantages que vous offre l'amitié impliquent également des devoirs de votre part. Et ces devoirs-là, on ne peut pas y consentir quand on n'a pas ou ne cultive pas certaines choses clés. D'où l'idée de la vertu dont je parlais plus tôt. Que l'on se comprenne bien, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, quand vous n'avez pas d'amis, quand personne ne s'inquiète pour votre bien-être, quand quelqu'un n'est pas soucieux de ce qui est bien pour vous, cela veut dire simplement que, et désolé de vous le dire comme ça, mais cela veut dire simplement que vous êtes une mauvaise personne ou une personne profondément ignorante. Mais vous êtes beaucoup plus une mauvaise personne. Je répète, si vous n'avez pas d'amis, cela veut dire que vous êtes une mauvaise personne ou une personne profondément ignorante. Et vous ne pouvez réellement vous en prendre qu'à vous-même. Écoutez-moi très bien, messieurs, je m'adresse spécifiquement à vous. Considérez l'expression « être l'ami d'une personne ». Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? À la fin, vous vous répondrez à la question suivante. Vos amis actuels, est-ce que vous êtes leurs amis? Posez-vous la question. Mais attendez que je finisse mon développement et vous pourrez vous poser cette question. Et vous pourrez vous y répondre à vous-même. Vous déciderez à ce moment si vous êtes réellement les amis de vos amis actuellement. Être un ami, c'est porter l'étiquette de l'ami même dans les actions. Ce n'est pas juste un titre nominal. C'est-à-dire que quand on vous regarde de l'extérieur, l'on doit être en mesure de dire « c'est mon ami ». Et quand on dit « c'est mon ami », il ne faudrait pas que ce soit simplement parce que eh bien, vous avez passé votre enfance ensemble. Mais la personne qui dit « c'est mon ami », il faudrait que cette personne le pense réellement. Qu'est-ce que cela implique d'être l'ami de quelqu'un? Être un ami, c'est consentir à des sacrifices pour le bien-être d'une autre personne sans rien attendre en retour. Et quand je dis rien, c'est absolument rien du tout. Même pas la possibilité d'être payé en retour. Déjà, l'idée du sacrifice vient bien à propos parce que cela, c'est la spécificité de la chose de l'amitié. Il est facile d'appeler son ami, une personne, quand on doit recevoir des faveurs d'elle. Mais qu'est-ce qu'il en est du moment où nous devons faire, donner, d'accord, de l'aide, faire des faveurs. Des faveurs qui, peut-être, ne nous arrangent pas techniquement. Eh bien là, on commence à mesurer la portée de la chose. Le principe du sacrifice amical, c'est un principe simple et sa cruauté vient justement de sa simplicité. Imaginez que vous vous réveillez un matin. Vous avez une journée chargée, mais vous avez pu l'organiser de sorte à pouvoir faire toutes les choses que vous devez faire au cours de cette journée. Autour de 11h en matinée, votre ami vous contacte et il vous demande un service qui ne s'accorde absolument pas avec vos plans. Et pour y arriver, vous devez réaménager tous vos plans. Du coup, vous vous retrouvez en tête à tête avec la contrainte que rendre ce service vous apporte. Maintenant, imaginez ensuite que plus tard, le même ami vous demande un autre service. Cette fois-ci, non seulement vous devez réaménager votre journée, mais vous devez vous dépenser financièrement pour remplir cette faveur que votre ami vous demande. Là, l'idée de contrainte devient plus prononcée. Pour arriver à rendre ces services, d'abord, vous devez développer de la patience. La patience de rendre votre frustration inexpressive face aux besoins de votre ami. Puis, vous devez développer le courage de réaménager toute votre journée. Ensuite, vous devez consentir au sacrifice de peut-être dépenser un peu moins de votre argent dans le but d'en utiliser une partie pour votre ami. Le sens profond de l'amitié naît vraiment de l'idée de contrainte qu'elle implique pour la personne qui en fait preuve. Comprenez, quand il n'y a pas d'exercice de contrainte sur le soi propre dans l'intérêt de l'autre personne qui reçoit la faveur, eh bien, il n'y a pas raison de parler d'amitié. Une contrainte doit forcément exister. Vous pouvez ne pas ressentir la contrainte, mais elle doit exister. Quand vous avez 4 dollars et vous donnez la moitié à votre ami, eh bien, vous exercez clairement une contrainte sur vous-même, n'est-ce pas? Cette contrainte n'est pas juste une contrainte sans valeur, puisque ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte. C'est la contrainte que vous avez imposée sur vous-même qui donne le sens à l'amitié. Parce que quand vous avez 2000 dollars et que vous donnez 10, ce n'est pas une contrainte. Parce que la proportion est infirme. Quand votre ami doit passer la nuit sur votre canapé parce qu'il ne peut pas rentrer chez lui, alors que vous recevez la visite de votre petit ami, eh bien, là vous faites un sacrifice. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre petit ami. Et cela, je suppose que ça vous embouche en coin, n'est-ce pas? Quand vous décidez de renoncer à une fille qui vous plaît, parce que vous vous rendez compte que cela pourrait créer une friction avec votre ami, vous faites un sacrifice. Mais plus loin encore. Au-delà du sacrifice, qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela veut dire que vous avez non seulement consenti à vous exposer à des contraintes, mais plus encore que vous avez mis des besoins d'une autre personne au-dessus des vôtres. Ainsi donc, vous avez endigué en vous-même le vice de l'égoïsme, le vice de l'égocentrisme. En ce moment, vous vous envoyez à vous-même un message clair. Le besoin de telle autre personne compte autant que le mien. En ce moment, alors, l'amitié commence à vous rendre service. Non pas parce que vous êtes en partenariat avec une autre personne, mais beaucoup plus parce que dans le but d'être un meilleur ami à une autre personne, il faut que vous vous mettiez à jour vis-à-vis de vous-même en amenuisant vos vices et en augmentant votre capacité de bonté. C'est cela le vrai but de l'amitié. Deux amis, c'est un peu comme deux épées qui s'aiguisent entre elles. Deux épées qui se rendent meilleures. Deux amis, c'est deux personnes qui se rendent meilleures. Parce que l'ami est à la fois l'ami et a la fois l'ami en l'autre personne. Donc, plus on s'efforce à devenir un meilleur ami, plus on a la chance d'avoir un meilleur ami. C'est la raison pour laquelle je disais que si vous n'avez pas d'amis, vous êtes soit une mauvaise personne, parce que vous ne voulez pas être utile à une personne qui n'est pas vous. ou tout au moins, vous ne voulez pas être utile sans rien avoir en retour. Ou soit vous êtes profondément ignorant. Parce que vous pensez que rester dans son coin, c'est ne pas avoir du tout d'amis. Que l'on se comprenne bien. Il est bien d'être une personne discrète, une personne casanière, qui ne se mélange pas trop. Cependant, cette particularité dont il s'agit ici n'est pas censée éviter l'amitié, mais plutôt inviter les amitiés correctes, celles qui en valent la peine uniquement. Parce que le fait est que la plupart des gens qui évitent les amitiés ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas avoir d'amis, mais ils le font plutôt parce qu'ils ont fait l'expérience des mauvaises amitiés. Du coup, ils se disent que l'amitié est une mauvaise chose. Mais soyons réels. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'amis. Vous n'irez nulle part. Je vous dis, absolument nulle part sans amis. Mais là, vous me demanderez peut-être, si c'est le cas, la question la plus logique serait, comment se faire les bons amis, n'est-ce pas? Heureusement que la réponse à cette question est la chose la plus simple qui soit. Pour avoir de bons amis, il faut simplement être une personne vertueuse. Puis, être une personne utile. Dans un sens général et dans un sens spécifique. Il faut aussi être une personne avec des principes acérés. Des principes que vous ne sacrifierez jamais. Je m'explique. Rappelez-vous quelques épisodes auparavant, je vous ai dit qu'il y a une différence entre la décence et la vertu. La décence, c'est ce qui est acceptable en société. C'est ce que la société veut que vous fassiez. Vous pouvez ne pas ressentir ces choses-là au fond, mais vous devez quand même afficher un extérieur acceptable. La vertu, cependant, c'est plus profond. C'est l'incarnation des valeurs prescrites par une force que vous estimez être supérieure. Et cette force-là, vous y croyez et donc vous épousez ses principes. La vertu, c'est quand vous adoptez certains comportements, non pas juste pour être accepté en société, mais parce que vous y croyez profondément. La poursuite de la vertu, donc, vous expose à l'acquisition et ensuite à la pratique de certains comportements, tels que le courage, la tempérance, la sobriété, l'endurance, la résilience, la gentillesse. La vertu, techniquement, c'est la pratique de la décence vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire que l'image que vous avez vis-à-vis de vous-même doit être une image décente. Et rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. En réalité, quand vous vous regardez, quel que soit ce que vous faites au dehors de vous-même, vous savez réellement qui vous êtes. Quelle que soit l'image que vous projetez au dehors de vous-même, quelle que soit cette image, peut-être que vous projetez une image de gangster. Peut-être que vous projetez une image de dur à cuire. Mais si vous n'êtes réellement pas cette chose-là que vous projetez, eh bien vous le saurez vous-même. Vous regardez dans le miroir et vous vous direz, putain, t'es une salope, n'est-ce pas? Donc, pratiquer la vertu, c'est être réel. Jusque dans les fentes de sa propre conscience. La pratique de ces valeurs-là ne peut pas être feinte. Ainsi, quand vous les pratiquez, vous vous mettez en présence d'un comportement intérieur qui épouse le comportement même de l'univers. Rappelez-vous la loi de la correspondance. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'une personne, c'est-à-dire dans le microcosme, a sa correspondance à l'extérieur, c'est-à-dire dans le macrocosme. C'est de l'alchimie intérieure. La manière dont vous vous comportez intérieurement et les choses que vous vous forcez soit à faire ou à ne pas faire, les valeurs que vous vous efforcez de respecter et surtout l'image intérieure que vous avez de vous-même, eh bien, toutes ces choses-là vont s'extérioriser. Et c'est justement cette perception que vous allez insuffler autour de vous. Ainsi donc, les gens autour de vous vont commencer à vous voir de cette manière. Vous ne pouvez pas faire semblant, en fait. Vous devez être pour pouvoir attirer. En réponse à cette perception qu'ils ont de vous, eh bien, les personnes qui sont sur la même fréquence, sur la même longueur d'onde que vous, n'auront pas d'autre choix que de graviter autour de vous. Et c'est comme cela que vous devenez amis à de bonnes personnes. Le jeu est simple en réalité. Quand vous êtes une bonne personne, vous attirez de bonnes personnes. Quand vous êtes une mauvaise personne, vous en attirez de mauvaises. Or, si nous supposons, comme nous l'avons dit plus tôt, que les mauvaises personnes ne peuvent pas avoir d'amis, eh bien cela veut dire que les mauvaises personnes que vous attirez ne sont pas vos amis. Soit vous les foulerez au sol, soit ils vous fouleront au sol en premier. Une fois que vous avez attiré les gens autour de vous, encore faut-il les garder, n'est-ce pas? C'est en cela que devient important l'utilité. L'utilité que vous avez pour les gens. Vous devez être utile à quelque chose dans la vie des gens, de façon spécifique et de façon générale. Dans le sens de la généralité, vous devez être en mesure de rendre de petits services à vos amis, de leur faire de petits dons. Cela peut ne pas être quelque chose de grandiose, mais les petites choses, justement, sont les choses qui aident le plus. Car quand on les utilise, on se rappelle de celui qui nous les a offertes. Dans un sens plus spécifique, vous devez être utile et c'est là que les problèmes commencent. Ici, vous devez être cette personne qui, dès qu'on appelle son nom, l'ami est satisfait parce qu'il sait qu'avec vous, il pourrait trouver solution à un problème. Ce n'est pas forcément un problème d'argent. Vous devez être mentalement équilibré pour être en mesure de porter une aide à une personne. Vous devez être une personne dont on a envie de suivre l'exemple. Une personne dont on aime la compagnie. Une personne tellement solide dans ses bottes que ses amis en question se disent « J'aimerais ressembler à ce négro. » Ou tout au moins, « J'aimerais que mes enfants aient le même comportement que lui. » Ce serait cool. Quand vous avez de ces valeurs-là, qui ne sont pas faciles à acquérir, les gens graviteront autour de vous parce que, inconsciemment, tout le monde sait qu'il faut toujours être dans la vicinité de la personne avec laquelle on peut évoluer le plus et apprendre le plus. Quand vous vous efforcez d'être cette personne, les gens vont naturellement graviter autour de vous. Si ce sont des femmes, vous leur donnez l'idée de l'amitié et en même temps vous leur montrez que tous les hommes ne sont pas des mufles. Si ce sont des hommes, encore mieux, vous leur prouvez qu'on n'est pas obligé d'être un mufle pour réussir dans la vie. La dernière qualité qui est d'une importance capitale à mes yeux en termes de comment être un ami, eh bien, c'est avoir des principes inécrasables. Le fait est que vous ne pouvez pas être utile à une personne si vos principes sont en vente au plus offrant. Et ici encore, je ne parle pas encore des principes moraux, je parle des principes tout simplement. En fait, vous ne devez pas être le type qui consent à tout, même si ça ne l'arrange pas. Même si cela va contre, techniquement, ce qui est sain pour lui. Je sais que ça a l'air d'aller en contradiction avec l'idée des sacrifices. Mais je vais m'expliquer et vous verrez qu'il y a une différence entre faire des sacrifices et vendre ses principes. Faire des sacrifices, comprenez bien, c'est endiguer son propre champ de confort pour permettre à une autre personne d'augmenter le sien. Vendre ses principes, en revanche, c'est s'imposer un comportement social qui n'est pas à votre avantage, juste pour plaire ou pour acquérir de la reconnaissance vis-à-vis d'une autre personne, ou pour se faire accepter d'une autre personne. Quand vous vendez ou abandonnez vos principes, vous ne rendez aucun service à personne. Quand vous remettez 2 dollars de vos 4 dollars à un ami pour qu'il puisse offrir un repas, c'est un sacrifice. Mais quand vous acceptez d'aller boire un verre le soir avec votre ami, parce que vous voulez lui donner l'impression d'être un chogar, alors que vous savez très bien que vous devez vous réveiller tôt le lendemain, eh bien ça c'est un manque de principe. Imaginez que vous avez décidé de devenir meilleur. Donc, vous vous êtes remis à la gym, vous avez commencé à soigner votre alimentation, vous voulez même devenir végétarien. Et boum, vous commencez à perdre du poids. Vos muscles se forment, vous devenez plus athlétique, plus fort, plus performant. Et dans ces activités-là, où vous aviez de la peine à garder le souffle, vous devenez extrêmement performant. Et soudain, ne voilà-t-il pas que votre ami vous propose d'aller au fast-food pour prendre un McDo? Vous lui dites, « Ah non, je ne pense pas que ça puisse se faire, tu sais, ça ne me convient plus, je suis en train de changer mes manières. » Mais lui, il vous dit, « Mais non, mais c'est qu'une fois en passant, cela ne te fera aucun mal. » Et vous? Parce que vous ne pouvez ou peut-être ne voulez pas déplaire à cet ami, ou vous ne voulez pas qu'on vous traite d'excentrique, de bizarre, d'égoïste, vous dites, ok, allons-y. Ça, c'est un manque de principe. Vous ne devez jamais sacrifier ce que vous pensez être une vertu juste pour plaire à votre ami. Si vous ne pouvez pas vous maintenir dans une ligne droite, comment pensez-vous être en mesure d'être bon à quoi que ce soit? Si une personne est votre ami, il ne devrait absolument pas contrecarrer une chose que vous estimez être bonne pour vous. C'est vrai que ça dépend des cas. Peut-être que vous êtes ignorant. Peut-être que vous ne savez pas que cette chose n'est pas bonne pour vous et que lui, il essaie simplement de vous aider. Mais il y a des choses que même les personnes qui vous propose le contraire, savent très bien que ces choses sont bonnes pour vous. Je viens de vous donner l'exemple du McDo. Nous savons tous que ce n'est pas une nourriture saine. Nous savons tous que si vous mangez ce genre de nourriture pendant, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 ans, vous allez devenir obèse et que votre risque de diabète va crever le plafond. Et que votre risque de mourir avant 30 ans va s'augmenter. Nous le savons tous. Ce n'est pas une situation aussi compliquée que une situation de famille où votre ami vous dit de faire telle chose et vous vous dites non, je ne peux pas le faire, c'est pas bon pour moi. Alors que vous ne comprenez pas et lui, il a vu, il a une vue plus large que votre vue. Non, ce n'est rien d'aussi compliqué. Ici, nous parlons de trucs extrêmement simples. Nous parlons de vous avez décidé d'aller peut-être à la gym et votre ami vous dit non, restons à la maison, regardons un film. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas ce genre de rectitude, d'accord, nécessaire pour dire à votre ami, j'ai dit non, je vais à la salle de gym. Eh bien, si vous n'avez pas ce genre de rectitude, si vous n'avez pas ce genre de principe, comment voulez-vous être bon à quoi que ce soit? Et ce principe vaut également dans l'autre sens. Si vous avez un ami qui est marié, vous ne devez jamais lui proposer d'aller en boîte de nuit ou dans un bordel avec vous. Si vous avez un ami non fumeur, vous ne devez jamais fumer devant ou à côté de lui. Si vous avez un ami non alcoolique, vous ne devez jamais boire dans sa vicinité. En gros, vous ne devez jamais transformer les vertus de votre ami en vice. Donc, si vous vous retrouvez à être le type dont l'ami essaie de remettre sa vie en ordre, ne soyez pas le gars qui lui propose d'aller manger un McDo. Vous devez respecter votre amitié avec la personne. Le plus important, c'est à tout prix d'être l'ami d'une personne avant de vouloir qu'une personne soit le vôtre. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ceci, je le dis clairement sans jeu de mots. Commencez par être charitable si vous voulez que les gens le soient vis-à-vis de vous. Soyez bon, devenez meilleur. Vous verrez, les bonnes personnes viendront dans votre vie. Et ils deviendront vos amis. Vous leur rendrez des services et ils vous en rendront en retour. Plus vous deviendrez digne d'avoir des amis, vous verrez que vous êtes un bien meilleur être humain vous-même. Soyez l'ami dont les gens ont besoin dans leur vie. Et vous verrez vous-même que vous êtes un meilleur être humain, un meilleur homme. N'oubliez pas d'être reconnaissant vis-à-vis de vos amis. Ces amis-là qui vous rendent des services. Aussi minimes que ces services soient, ils valent toujours leur pesant d'or. Tout le monde ne vous rendra pas le même service. Soyez fort, soyez discipliné, soyez bon, soyez vertueux et vous aurez des amis du même acabit. Moi, je m'appelle Ice et ici c'est le Icepod. Je vous parle la semaine prochaine. À plus. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si vous avez apprécié cet épisode...